Donc je suis médecin généraliste remplaçant et j'ai fait un DU de gynécologie en fait en plus dans mon cursus. Donc aujourd'hui on m'a demandé de parler de la contraception et de l'IVG. Donc on m'a demandé de parler de la partie théorique et pratique. Donc je vais essayer de faire quelque chose qui soit digeste pour tout le monde. Si on peut juste me mettre le vidéoprojecteur, parce que je ne sais pas comment on fait.
Les fichiers sont déjà là. Ouais.
Alors, du coup, on va commencer par la contraception. Donc, il y en a vraiment beaucoup. Je pense que... je suis désolée parce que les images sortent un peu foncées. Donc, on va parler de toutes les méthodes qui existent actuellement, que ce soit les méthodes naturelles ou les méthodes barrières, c'est-à-dire les préservatifs, le diaphragme ou après tout ce qui est hormonal, comme les injections, la pilule, le patch ou le stérilet. Donc on va voir un petit peu tout ça. Et avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, juste je voulais faire un petit peu d'histoire pour vous dire que ça ne date pas du 20e siècle, hein, la contraception. Il y avait dans le Moyen-Âge des moyens de contraception qui étaient faits, en fait c'était des préservatifs en lin où on nous envoyait en peau de mouton, en peau de chêne, en peau de serpent. Donc on a... toujours la même intelligence, hein, des amis. Et en Grèce antique, les femmes buvaient des infusions. Et d'après des recherches actuelles, c'était plus ou moins efficace. Mais on s'est rendu compte que les plantes qu'ils utilisaient, en fait, c'était des plantes avec de l'œstrogène. Donc, ça marchait un peu. À savoir que la pilule, elle a été inventée en 1956, donc aux États-Unis. Mais en France, depuis 1920, il y avait une loi qui interdisait toute la contraception, qui interdisait bien sûr l'avortement. C'est qu'en 1967 que ça a été autorisé par la loi Neuville. Donc, un petit schéma, ouais, je suis vraiment désolée. C'était juste pour vous montrer un peu le début, hein. On a tous un petit peu en mémoire l'embryogenèse. À savoir que du coup, il y a l'ovulation. Et le but de la contraception, en tout cas en France, c'est de viser les 5 premiers jours. Après avoir discuté en comité, comme ils savent le faire, ils ont décidé qu'ils allaient se positionner sur les 5 premiers jours de l'ovulation jusqu'à la contraception, jusqu'à la fécondation, pour pouvoir faire toutes les contraceptions. Donc, aucune contraception, vous ne verrez actuellement commercialisée en France, ne dépassera les 5 jours. Notamment dans les contraceptions d'urgence, hein, dont on parlera, ce sera toujours dans les 5 premiers jours. Donc, parce qu'ils considèrent, alors ça a été très difficile, j'imagine, de stipuler quand est-ce qu'on pouvait dire qu'il y avait vraiment une vie qui commençait ou non. Donc, ils se sont dit que, allez, le 5e jour, parce qu'au 5e jour, en fait, il y a la différenciation des cellules qui se fait. On parle de blast, hein, dans vos souvenirs. Donc, c'est à ce moment-là qu'ils se sont dit, bon, allez, on ne va pas plus loin, la contraception s'arrête du coup au 5e. Donc juste pour rappel, Ça, ce sera aussi surtout pour l'IVG. Les battements du cœur commencent au bout du 21e jour. Et au niveau de 42 jours, en fait, on a une activité cérébrale. Donc, on va parler des contraceptions hormonales. Donc, chez la femme, hein, il y a plusieurs hormones. On fait vite, hein, je ne vais pas vous embêter. Mais juste à savoir qu'il y a un pic. Le pic permet l'ovulation, donc l'ovocyte qui va rentrer au niveau de la trompe puis de la cavité. Et le but vraiment de la contraception, c'est de permettre à toutes les hormones en fait, d'être toujours bien équilibrées pour qu'il n'y ait pas ce pic-là et qu'il n'y ait pas d'ovulation. Donc, c'est vraiment le but de la contraception hormonale. Donc, on commence avec les pilules, donc les pilules progestatives et les pilules œstroprogestatives. Donc, les pilules progestatives, elles ont moins de contre-indications en général que les œstroprogestatives, puisqu'il n'y a, que de la progestative dedans. Donc, vraiment, la contre-indication, c'est tout ce qui est accident, thromboembolique, les cancers, bien sûr, cancer du sein, cancer de l'utérus, et toutes les pathologies hépatiques aussi. Et elles peuvent être utilisées pendant l'allaitement, contrairement aux pilules œstro-progestatives, qui ont bien sûr toutes les contre-indications qu'on vient de voir, en plus de l'hypertension lorsqu'elle n'est pas équilibrée, du tabagisme, des migraines. Voilà, elles sont vraiment, y a vraiment plus de contre-indications. Il faut vraiment faire attention quand on les prescrit pour qu'ils ne s'engendrent pas de troubles chez la personne. Donc, selon la chaise, hein, donc tout ce que je vous montre, c'est selon la chaise. Donc, il faut vraiment prescrire des premières et des deuxièmes générations. Donc, vous avez entendu, hein, dans l'actualité, on en a beaucoup parlé les années dernières avec les troubles qu'il y a eu avec les contraceptions de troisième génération, donc qu'on ne peut plus prescrire maintenant, parce qu'il y avait justement trop de risques thromboemboliques. Donc, ça, c'était pour la petite parenthèse. Donc, il y a vraiment beaucoup de contraceptions, beaucoup de noms différents. Donc, comme je vous disais, en première et deuxième génération en premier. Et à savoir, pour la prescrire, il y a une méthode, qu'on parle de la méthode Quick Start, donc pour éviter que les femmes soient perdues. Donc, quand est-ce qu'ils doivent commencer la contraception, quand est-ce qu'ils doivent l'arrêter ? On leur dit en fait tout simplement de commencer le jour de la consultation et de se protéger pendant 7 jours avec un préservatif, parce qu'il faut à peu près 7 jours pour que la contraception soit efficace. Donc ça évite qu'elles oublient « Ah mince, j'ai eu mes règles hier, il fallait que je commence demain ». Voilà, pour que ce soit plus simple pour la prise, donc on leur demande de prendre le jour de la consultation, d'avoir un préservatif pendant 7 jours avant d'arrêter le préservatif. Donc, ce qui est de la pilule, le souci, c'est l'oubli, parce qu'il faut vraiment que ce soit pris à heure fixe, sinon il peut y avoir une ovulation. Et il y a aussi, il faut penser que quand on est malade, quand les femmes, par exemple, elles ont des vomissements ou elles ont de la diarrhée dans les 4 heures après la prise n'a pas été efficace, il faut qu'elles reprennent un comprimé. Donc, souvent, il y a des personnes qui vont vous dire, voilà, je suis tombée enceinte sous contraception, mais peut-être que ça va être mal pris. Donc, c'est vraiment le souci aujourd'hui qu'on a avec la pilule, c'est vraiment la prise qui doit être régulière et toutes les contre-indications qu'on a vues. Et aussi, voilà, le fait que si elles sont malades, il faut faire attention. Donc, il y a d'autres contraceptions qui ont été inventées. Notamment le patch et l'anneau. Donc, ça, c'était donc des inventions contraceptives pour que ce soit plus efficace par rapport à la prise. Donc, ce genre de contraception, on le propose surtout aux femmes qui ont tendance à oublier leur pilule pour éviter que, voilà, qu'elles tombent enceintes et qu'elles demandent une IVG. Donc, il y a le patch. Donc, c'est un patch qu'on pose sur la peau, sauf au niveau de la poitrine. On le laisse pendant une semaine. On le change pendant 3 semaines. Et après, on a une semaine de pause. Et après, on recommence. L'anneau, lui, il est posé. Donc, c'est en intravaginal. Donc, il est posé pendant 3 semaines, une semaine de pause. Et on recommence. Donc, au niveau des contre-indications, donc, pour le patch ce sont, et l'anneau en général, ce sont les mêmes contre-indications que les contraceptions œstroprogestatives, parce que vous voyez, il y a toujours, c'est des hormones qu'on donne dans tous les cas, donc il y a toujours des risques d'écrire des troubles. Il y a aussi donc, les hormones injectables. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous en avez même déjà entendu parler, mais voilà, s'il y a vraiment des soucis, on voit que la patiente n'arrive pas voilà, à prendre sa pilule, le patch ça ne lui convient pas, on peut donner voilà, une injection donc, de progestérone tous les 3 mois. Donc, après, il y a toujours les mêmes risques et les densités minérales osseuses qui a tendance à diminuer chez la femme. Donc, c'est un traitement qu'on donne vraiment très sur des courtes périodes. Et l'implant contraceptif, qui est un petit peu de plus en plus répandu, parce que c'est une contraception qui a le meilleur indice de peur. Mais moi, l'indice de peur, ça permet de connaître l'efficacité d'une contraception. Donc, celle-ci, donc, c'est un implant qu'on pose au niveau du bras, soit à la taille d'une allumette en général. Il est posé pour 3 ans, donc il n'y a plus d'oubli, il n'y a plus d'histoire, elle a la diarrhée, elle vomit, elle est malade, elle n'est pas bien. Et donc, elle est beaucoup plus efficace. Donc, le problème qu'on a avec cette contraception, c'est qu'elle peut engendrer ce qu'on appelle des spottings, c'est-à-dire que les femmes voilà, vont avoir des saignements assez réguliers, ou elles peuvent ne pas du tout avoir leurs règles. Et ça peut poser problème pour certaines personnes. Donc voilà, donc ça c'est à adapter en fonction. Et il y a le dispositif intra-utérin, qu'on appelait à l'époque stérilet. On évite maintenant de donner ce terme-là parce que dans l'objectif des femmes, si on posait un stérilet, on était stérile. Donc, comme c'est pas le cas, hein, c'est juste temporaire. Donc, maintenant, il faut vraiment dire DIU, dispositif intra-utérin. Donc, il y a 2 sortes, un dispositif qui est hormonal, un dispositif qui est au cuivre. Donc, le dispositif hormonal, hein, c'est comme les contraceptions mâles dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est les mêmes contre-indications. Et le dispositif au cuivre, aujourd'hui la tendance est plutôt à celui-ci, parce que les femmes veulent de moins en moins de contraception hormonale. Donc c'est celui-ci qui est souvent prescrit. La grosse difficulté avec le stérilet au cuivre, c'est que son but, c'est d'inflammer un petit peu l'endomètre pour éviter justement tout passage des spermatozoïdes et tout passage des ovocytes. Et ça, en fait, ça peut engendrer des saignements très abondants chez la femme. Et elles peuvent des fois avoir des anémies. Donc ça peut être des raisons pour enlever le stérilet au cuivre. Et pareil, pour le stérilet hormonal, celui-ci, par contre, en général, il n'y a pas de règles. Donc il y a moins de soucis, mais c'est des hormones. Hop, donc là, c'est ce que je peux vous expliquer. Donc, les méthodes barrières que vous connaissez. Hein. J'ai essayé de faire des petites choses un peu drôles. Donc, le préservatif, donc au masculin, au féminin. Le préservatif féminin, en général, est beaucoup plus large. Et les femmes n'apprécient pas, en général, dans la pratique. En plus, il fait du bruit, pardon. Et il y a les spermicides, hein, ce sont des gels ou des ovules qu'on met justement en intra-vaginal. Et donc vraiment dans les méthodes barrières, c'est vraiment que les personnes qui, si toutefois elles ont une grossesse, ils l'aggravent. Il faut toujours parler de ça avec les patients. Il y a aussi le diaphragme et la cage vaginale qui se placent en général 2 heures ou juste avant le rapport, qu'on laisse pendant 8 heures, maximum 24 heures, on enlève, il est réutilisable, on le lave, on le recommence, et puis voilà. Mais on ne peut pas le prescrire, enfin, c'est chez la. Donc ça, c'est sous prescription, hein, c'est pas la femme qui va en pharmacie qui le prend, c'est sous prescription. Et c'est à éviter chez les femmes qui ont déjà eu des enfants. Parce que du coup, comme ça se met au niveau du col, le col est un peu plus large après avoir accouché. Donc c'est moins efficace. Donc voilà. Et les méthodes naturelles. Alors, c'est la grande vogue, comme je vous expliquais, hein, les femmes ne veulent plus de contraception, plus d'hormones, il y en a marre, on ne sait pas ce qu'on prend, et puis on est stérile, on ne sait pas, enfin voilà. Donc, méthode naturelle. Donc voilà, c'est en augmentation hein, en France, on est à 9,5% dans les données de 2013 du CNGOP. Donc il y a la douche vaginale, donc le principe, hein, on a eu un rapport sexuel et on va se laver tout de suite après. Bien au fond, pour bien tout enlever. Il y a la méthode Ogino qui existait avant l'âge de la contraception orale. Donc c'est d'éviter les rapports sexuels pendant la période de fécondabilité. Donc quand on sait que voilà, on est censé être dans la période où on va avoir un enfant, il y a la possibilité d'avoir un enfant, on ne fait rien. Chacun de son côté. Ensuite, il y a la méthode Billing. Donc, alors, c'est une méthode qui permet d'évaluer en fait la glaire cervicale. Donc, la glaire cervicale, elle change un peu d'aspect justement quand on est en période de fécondabilité. Donc, le but, c'est que la femme regarde sa glaire, qu'elle espace ses doigts et qu'elle regarde si ça fait 5 cm, c'est que du coup, pas de rapport. Hop, donc voilà. Donc vous imaginez l'efficacité de ces méthodes. Voilà. Sinon, il y a la méthode retraite, mais c'était. Alors, je me suis un peu amusée quand même à regarder sur les forums. Hein. Les gens, ils sont à fond. Bref. Alors, il y a la méthode de retraite. Donc c'est avant que l'homme éjacule, et ben il s'arrête, quoi. Donc stop. Voilà. C'est fini. On recommencera une prochaine fois. Ensuite, la méthode des températures, donc à savoir que la femme, lorsque son cycle ovulatoire se modifie, sa température évolue aussi, donc elle augmente un petit peu. Donc c'est que les femmes, pour cette méthode-là, elles doivent prendre leur température avant de poser le pied par terre le matin réveil. Et donc, quand elles voient que ça augmente, stop, il faut rien faire, pas de rapport sexuel, parce qu'on est en période d'ovulation. Et maintenant, les laboratoires ont inventé les tests d'ovulation. Donc voilà, tous les jours, hop, est-ce que j'ovule ou pas? Et si j'ovule, si c'est positif, et là on ne fait rien. Il y a la méthode MAMA aussi. Donc c'est par rapport aux femmes qui ont accouché, qui allaitent. Donc c'est quand c'est un allaitement vraiment exclusif et qu'il n'y a pas du tout de retour de couche. Ça pour le coup c'est efficace, mais si vraiment, vraiment c'est un allaitement exclusif tout le temps, tout le temps. Et qu'il n'y a pas de retour de couche. Donc voilà, hein, c'est des méthodes naturelles, il y a quand même 25% d'échecs, il y a quand même beaucoup de contraintes, et les spécialistes ne recommandent pas en fait ce genre de contraception au couple, parce qu'il y a vraiment trop de risques d'avoir une grossesse, si toutefois voilà, le couple ne désire vraiment, vraiment pas d'enfant. Donc c'est pas apprécié. Donc même la chaise hein, le dit, c'est que ce genre de contraception, c'est à proposer qu'aux couples qui veulent en fait juste espacer leur grossesse et que si toutefois il y avait une grossesse, ils la garderaient. Donc ça c'est vraiment à discuter avec les patients. Donc comme je vous disais, hein, l'indice de peur, donc aujourd'hui vraiment la contraception qui est la plus efficace, c'est vraiment l'implant. Hein. À 0,05, c'est la meilleure contraception aujourd'hui. En France, la contraception qui est la plus prise, c'est quand même la pilule, qui a quand même un bon indice de peur, mais ça, faut pas l'oublier, quoi. Donc, j'avais mis aussi voilà, les contraceptions d'urgence. Donc, on est toujours dans l'indication voilà, de la pilule, ou si par exemple voilà, on a oublié de remettre son patch ou son anneau, ou voilà, il s'est décollé, il y a eu des choses. Il y a la contraception d'urgence qui existe. Et comme je vous ai dit tout au départ, la contraception, elle est faite les 5 premiers jours. Donc, c'est-à-dire que la contraception, elle peut être donnée les 5 premiers jours, enfin 5 jours après l'oubli. D'accord ? En général, plus tôt elle est prise, mieux c'est. Il y a différentes méthodes. Donc là, il y a deux noms de la pilule différentes. Une qui se prend à 72 heures, donc 3 jours, et l'autre qui se prend à 5 jours. Et puis il y a le dispositif intra-utérin qui peut se mettre au bout de 5 jours s'il y a eu un oubli. D'accord ? Et comme on parle de contraception, il y a la contraception définitive. Donc là, on en a aussi entendu beaucoup parler hein, aux informations ces derniers mois. Donc il y avait une méthode qu'on utilisait chez la femme, c'était l'insertion d'un dispositif intratubaire, c'était en forme de ressort, donc le principe c'était de le mettre au niveau des trompes, donc il y avait une fibrolyse qui se faisait, du coup il n'y avait aucun passage des ovocytes, et du coup elles étaient stérilisées. Donc la grande chose c'est qu'il y a plein de personnes qui ont eu des troubles suite à ce dispositif, donc maintenant il ne sera plus commercialisé en France. C'était plus la peine d'y penser. Et puis sinon, ben, c'est la ligature des trompes, puisque ça est toujours d'actualité. Donc c'est vraiment définitif, hein, c'est vraiment irréversible. Donc avant, il y avait une loi qui proposait un âge à proposer aux femmes avant. Maintenant, il n'y a plus de limite d'âge. Toutes les femmes peuvent demander une ligature des trompes. Mais dans la pratique, en général, les gynécologues ne pratiquent pas chez les femmes qui n'ont pas 40 ans. Parce que tout peut arriver. Ils ont déjà eu des cas où des femmes avaient dit qu'elles ne voulaient plus, puis finalement, il y a eu un accident, les enfants sont décédés, enfin voilà, elles peuvent être violentes, c'est impossible. Donc voilà, on sait qu'en général, les gynécologues ne sont pas d'accord de le faire avant 40 ans. Et. J'ai oublié, mais chez les hommes aussi ça existe, hein. Ça s'appelle la vasectomie. Donc le but c'est de faire une fermeture au niveau du canal déférent, du coup les spermatozoïdes ne passent plus, et c'est définitif. Donc pour la petite anecdote, il y avait des moyens contraceptifs qui étaient cherchés pour l'homme, ça n'existe plus, hein. On ne fait plus de recherche là-dessus. Ne me demandez pas pourquoi, mais voilà. Donc, comme je vous expliquais, hein, en France, la contraception la plus utilisée, c'est la pilule. Après, il y a le stérilet dans cette partie-là. Et puis, on voit quand même toutes les méthodes naturelles et de barrière qui sont quand même assez présentes. Donc, ça, c'était pour faire rire. Là, comme ça, au moins, on est sûr. Il n'y a pas de grossesse. Quoi. Enfin. Donc, on va parler de l'interruption volontaire de grossesse. Pour la petite histoire, hein, ça a été validé par la loi de Veil en 1975. Donc, toute femme, qu'elle soit mineure ou non, peuvent demander à leur médecin d'interrompre leur grossesse si, bien sûr, elles sont entre 0 et 14 semaines de semaine de grossesse. Donc en France, chaque année, on compte à peu près 220 000 IVG par an. Voilà. Donc comme je le disais, hein, c'est jusqu'à la 12e semaine de grossesse, donc 14 semaines d'aménorrhée. Donc c'est seule la femme qui a le droit de demander, hein, ni ses parents, ni son conjoint, c'est vraiment juste la femme qui a le droit. Jusqu'au 26 janvier 2016, il n'y a pas très longtemps, il y avait une semaine de réflexion qui était obligatoire. C'est-à-dire que la femme venait, elle demandait une IVG, elle devait attendre une semaine avant qu'on puisse lui faire. Il fallait vraiment qu'elle elle signe, elle dise que oui, elle veut une IVG. Ben, maintenant, ça, c'est fini. Voilà. Depuis janvier 2016, et ben, plus besoin de semaine de réflexion, vous venez, vous pouvez vérifier, ben, vous la faites. Voilà. Par rapport à la différence entre les mineurs hein, et les femmes majeures, c'est que les mineurs, elles ont encore l'entretien psychologique qui est obligatoire. Avant, c'était aussi obligatoire chez les femmes adultes, mais ça, c'est aussi terminé. Et les femmes mineures, les enfants mineurs, les femmes mineures, pardon, elles ne sont pas obligées de venir avec leurs parents, au contraire, maintenant tout est anonyme, donc il suffit qu'elles aillent au planning familial, il y a quelqu'un qui les accompagne. Et voilà.
Et donc bien sûr, il y a une visite de contrôle après l'IVG.
Donc il y a différents types d'IVG, deux principalement, l'IVG médicamenteuse et l'IVG chirurgicale. Donc l'IVG médicamenteuse, en général, on l'a plus jusqu'à 7 semaines d'aménorrhée. Donc c'est des gélules qu'elles mettent au niveau vaginal et du coup ça permet l'expulsion en fait,
de l'embryon, du fœtus,
et puis l'IVG chirurgicale, ou par aspiration, qui se fait jusqu'à 14 semaines d'aménorrhée. Donc, en tant que personnel professionnel de santé, on est censé parler des effets indésirables de tout ce qu'on prescrit, de tout ce qu'on fait aux patients. Et donc, ça, je pense que c'est quand même un sujet où les médecins, généralement, passent assez vite hein, les effets secondaires. Donc, ça va prendre un petit peu de temps pour en discuter. Donc, bien sûr, hein, dans les deux cas, hein, que ce soit médicamenteux, que ce soit chirurgical, il peut y avoir des troubles au niveau de la fertilité. Il peut y avoir des risques d'hémorragie, de rétention. Voilà, l'embryon n'a pas été bien expulsé. Du coup, on est obligé de faire une aspiration si c'était médicamenteux au départ. Donc, pour ce qui est de l'aspiration, hein, les risques, c'est la perforation, la déchirure, l'hémorragie, pareil. Hein. Et des fois, un peu plus grave, hein, c'est d'avoir des atteintes des organes à côté. Et les infections utérines aussi. Donc, quelle que soit la méthode, hein, comme je disais, il y a des troubles de fertilité et des troubles psychologiques. Donc, les troubles psychologiques, on n'en parle pas en France. Il y a peu d'études qui ont été faites. C'est surtout en Suisse et aux États-Unis. À savoir que c'est indéniable, il existe des effets secondaires psychologiques, notamment la dépression, le suicide, voilà, les troubles alimentaires, aussi sur l'estime de soi. Ça peut très bien se comprendre, la culpabilité et les troubles de la sexualité. Donc, en chiffres, c'est un peu plus représentatif et plus parlant que de penser des tirés comme ça. Mais voilà, il faut savoir que quand même, le risque de dépression a augmenté de 65% par rapport à la population générale. Donc, quand je faisais ma bibliographie et que j'ai vu ça, je me suis dit, ah oui, quand même, on n'en parle pas, mais quand même. Voilà, 30 à 60% de pensées suicidaires, le taux de suicide est quand même 6 fois plus élevé. Une fois plus élevé, c'est 6 fois plus élevé. Il y a 30 à 50% quand même de troubles sexuels, 39 personnes qui souffrent de troubles alimentaires et les risques de toxicomanie et d'alcoolisation sont multipliés par 5. Mais ça, on n'en parle pas. Donc, comme je vous disais, les Suisses, eux, ils ont fait une étude pour un peu savoir les raisons qui poussaient les femmes à avorter, quelles étaient leur raison, à savoir qu'en France, on n'a pas le droit de demander. Une femme, elle veut avorter, quand elle avorte, on ne pose pas la question de savoir pourquoi. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas d'études qui ont été faites ici. Mais on sait que voilà, les mauvaises relations de couple, ça c'est un des premiers points qui ressort le plus sur cette étude. C'est vraiment une des raisons premières sur l'IVG. Après, il y a aussi de nouveaux hein, des femmes qui travaillent autant que les hommes et qui ont des formations, qui ont des impossibilités de gérer leur foyer et les enfants. Donc, du coup, ça peut être aussi un motif d'IVG. Et puis, la situation financière, alors, ce qui m'a aussi un peu surpris, c'est que, alors, c'est cité, mais ça reste quand même exceptionnel. Hein. La situation financière en soi, ça reste exceptionnel. Souvent, c'est qu'il y a une autre cause ajoutée. C'est que voilà, il y a une situation financière et puis bon, avec le coup, ça passe pas très bien. Donc, voilà. Mais voilà, seul, c'est assez rare que les femmes fassent une IVG pour ça. Et puis ben voilà, l'alternative à l'IVG. Donc voilà, s'il y a un problème financier, il y a des aides financières qui sont faites. Et puis ben l'adoption. Franchement, sous X, on en voit, c'est rare, c'est très rare, mais on en voit. Et juste pour noter, en fait, que ça c'est sur adoption.google hein, qu'on trouve ces données-là, il y a quand même 673 personnes qui ont obtenu l'agrément. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 673 personnes qui ont eu l'aval de l'État pour pouvoir adopter.
Et il y a quand même 9060 personnes qui ont formulé une demande. Donc, ils n'ont pas eu l'agrément, mais qui ont quand même fait une demande. Pour X raisons, si elles ne rentrent pas dans le cadre, hein, il y a plein de cadres pour l'adoption. C'était pas le thème, donc je ne les ai pas remis, mais voilà, il faut qu'ils aient plus de 28 ans, quoi, en couple ou non, mais voilà. Et il y a, en un an, il y avait 24 702 candidats agréés qui étaient en attente d'enfants. Donc, ça, c'est en France. D'accord ? Donc, là, ce sont toutes les personnes qui attendent pour adopter. Donc, on se dit quand même, on est à 220 000 IGVG, il y a 24 702 candidats à attendre un enfant.
Donc, ça, c'était la petite parenthèse. Et pour terminer, en fait, je voulais vous parler d'un livre, c'est Oui à la vie, de Randy Alcorn, je ne sais pas si vous le connaissez. Bon, le Seigneur, il fait bien les choses, je suis tombée dessus par hasard. Et j'y ai lu. Et en fait, c'est un médecin chrétien, non, il n'est pas médecin, c'est un orateur chrétien qui est américain et qui parle en fait dans son livre de l'IVG. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans son livre, c'est qu'il ne parle pas en fait de l'IVG vraiment avec des critères chrétiens ou alors ou pas, parce que la Bible dit non. Mais qui retrace en fait dans son livre l'ironie en fait de l'IVG aujourd'hui. Et ça m'a beaucoup parlé. Et moi j'étais quand même un peu dans l'idée où, bon, de toute façon en France, si on ne peut pas faire l'IVG en tant que médecin, on dit qu'on ne peut pas et puis c'est fini. Comme la loi dit, on est obligé de les renvoyer à un confrère et on les renvoie à un confrère et puis ça nous concerne. Et voilà, chacun rendra un compte à Dieu pour lui-même. Bon. Et en fait, en lisant ce livre, j'ai un peu plus réalisé qu'on avait quand même une portée et on pouvait quand même parler ouvertement aux patients qui viennent, puisque de toute façon, elles viennent quand même voir en général leur médecin traitant pour en parler. Et de discuter avec elles, de voir un petit peu leur raison et de leur proposer même juste l'adoption. Ça, c'est des choses que les femmes, que les médecins généralement ne parlent pas. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est les raisons qui sont souvent données, hein, de dire oui, voilà, les pro-avortements disent oui, je suis libre de mon corps, je fais ce que je veux, si je veux avorter, j'avorte, point final. Et en fait, on réalise que même la loi aujourd'hui nous dit qu'on n'est pas maître de notre corps, hein, parce que sinon on pourrait tous se prostituer. Il y a une loi qui l'interdit, donc on ne peut pas mettre son corps. Et puis aussi de réaliser qu'au final, l'embryon a un ADN qui est différent. Donc ça ne fait pas partie du corps de la femme, mais c'est vraiment un être humain à part entière. Donc voilà, donc c'est des petites choses comme ça où on se dit, effectivement, il faut remettre les choses vraiment à leur place. Hein. J'ai beaucoup aimé. Et bien sûr, il reparle hein, du cœur qui bat à 21 jours, du cerveau qui a un mouvement à 42 jours. Donc, ces petites choses-là qui, qu'on veuille ou non, à partir du moment où on sait qu'on a une grossesse, en général, c'est un mois plus tard. Donc, il y a forcément un cœur qui bat et forcément une activité cérébrale. Et quand on sait que, voilà, quand il n'y a plus d'activité cérébrale, plus de cœur qui bat, il y a une mort. Si c'est nous qui la créons, c'est qu'on l'a tué. Voilà, donc il dit des petites choses. Donc voilà, j'avais mis deux petites phrases de son livre. Chaque avortement chirurgical arrête le battement d'un cœur et met fin au mouvement d'un cerveau. Et les Noirs n'ont pas choisi l'esclavage, les Juifs n'ont pas choisi les camps de concentration, et les femmes ne choisissent pas le vol, et les bébés ne choisissent pas l'avortement. Donc voilà, c'est des petites phrases un peu clés de son livre. Donc, c'est pas toujours facile hein, d'avoir des patients et de pouvoir leur parler de ce genre de choses, mais ça prend du temps. Donc, pour ma petite expérience, je sais que voilà, j'ai pu passer une demi-heure à persuader une femme de prendre une contraception, sinon elle allait avorter. Donc le but, c'est pas voilà, de forcément les traumatiser, mais juste de les faire réfléchir en fait, pour leur faire savoir. Voilà. L'IVG, c'est pas une contraception, et que du coup, c'est pas les effets secondaires qu'elle aura, mais ça, c'est juste
un jour elle n'a pas d'enfant alors qu'elle veut un enfant, comment elle le vivra. Juste poser cette question, souvent ça fait bien réfléchir et après elle veut quand même une contraception. C'est encourageant. Et puis il y a aussi une chose qui m'avait marquée, c'est que voilà, souvent en tant que personnel professionnel de santé, on dit bon voilà, on va pas se sentir, on va pas être dans la vie intime des gens, voilà, s'ils veulent parler, ils parlent. Mais voilà, j'avais un médecin, c'était quand je faisais mon DU gynéco en fait, qui travaillait au planning familial. Donc, elle faisait ça souvent, hein, les jeunes qui viennent pour les visites des IVG. Et l'histoire m'avait un peu marquée quand même. C'était une femme de 35 ans qui vient pour une demande d'IVG, mais quand on lui demande l'histoire, en fait, 3 mois avant, elle avait demandé à ce qu'on lui enlève sa contraception parce qu'elle avait des ordres de grossesse. Un mois après, elle tombe enceinte et puis ben, du coup, elle n'a plus sa grossesse. Et c'est quand même étonnant. On se demande quand même qu'est-ce qui se passe. Bon, s'il y a un problème de couple, s'il y a un problème de finances. Non, la seule réponse qu'elle a donnée, c'était qu'elle était libre de faire ce qu'elle veut de son corps. Et le docteur qui était là, en fait, qui n'est pas chrétien, lui a dit, mais vous avez regretté. Enfin, elle a vraiment été sévère avec la patiente en disant mais non, vous allez regretter, voilà, en plus vous avez l'âge qui avance, donc si vous voulez un autre enfant après, ça va être difficile. Et intérieurement, je me suis dit quand même, le médecin, elle n'est pas chrétienne et tout, et puis elle parle comme ça, quoi. Et puis en plus, elle est dans un planning familial, donc elle fait ça, et quand même, elle discute, quoi. Et bon, malheureusement, ça n'a pas changé la vie de la patiente, mais quand même, ça m'a fait réfléchir sur le fait que voilà, on est quand même en face de personnes à qui on peut parler, en fait. Et que faut pas se cacher derrière notre bureau, ne pas en parler, même si ça prend 30 minutes. Il faut quand même prendre le temps de vraiment en parler aux patients, parce que c'est pas anodin. Et juste pour souligner, vous avez vu, il y a beaucoup de contraception et pourtant on reste encore très très limité. Il y a des cas hein, que j'ai eu où malheureusement on ne savait pas quoi proposer à la patiente comme contraception parce qu'elles avaient des contre-indications à tout ce qui était hormones et contre-indications aux stérilocules parce qu'elles avaient des anémies. Donc quand on est face à ce genre de problème, ça peut être un petit peu difficile. Mais voilà, il y a quand même plein de choses qui sont faites et il faut vraiment prendre le temps de parler. Donc voilà, j'ai tout dit. Donc j'ai terminé. Merci.
Merci beaucoup Christine. C'est sacré imaginaire, mais il y a plus plein de choses. On va enchaîner avec 15 minutes de pause. Alors, si je ne me trompe pas, il y a une organisation qui commande des pizzas à midi. Est-ce que c'est le cas ?
Oui, tout à fait. Alors,
donc, allez, voilà.
Alors, 10 secondes. Alors, je vous reviens à une chose passivement matérielle, excusez-moi. Donc, c'est juste pour...